the mafia, in the fact the mafia in the night. E come il vero stesso. Poi, ne sa che succede. Moi, je viens d'un pays, si je veux dire, mais communiste. C'est-à-dire, c'est pas un pays complètement chrétien comme en France. Mais oui, aujourd'hui, nous entendons beaucoup le mot la crise identique des chrétiens. Vous entendez beaucoup. C'est quoi la crise identique des chrétiens? Et c'est la fête aujourd'hui qui nous invite à vivre quelque chose de nouveauté de la vie identique des chrétiens. Parce que pourquoi je dis comme ça? Parce que moi je vois, je rencontre beaucoup de gens qui aime déjà baptisé, mais ils ne savent pas comment ils peuvent y aller. Ils tombent au long. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le repère. Ils n'ont pas le repère éthique, le repère spirituel. Ils vont partout. Ils touchent à gauche, à droite. C'est une religion, c'est une religion, soit bouddhisme, soit n'importe, soit islam, soit voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le repère. Et je pense qu'il faut retourner le mot identité chrétienne au point un peu. Parce que la fête aujourd'hui de Christ est roi, c'est aussi toujours une grande ambiguïté chez les chrétiens. C'est parce que c'est le roi. Mais le Christ, roi, ben c'est qu'un roi, on veut dire, il y a une grande ambiguïté chez nous. Comme ça, il faut regarder près de l'évangile aujourd'hui, vous voyez, et après, comment les martyrs viennent aller, ils vivent le croix, ils vivent leur vie chrétienne. Donc, Jésus qui a dit dans l'évangile à la fin, il a dit tout à l'heure, je suis venu pour témoigner à la vérité. À la vérité. C'est-à-dire que, vérité ici, il faut, il y a moi, c'est deux questions. Il faut connaître l'homme et il faut connaître Dieu, qui est l'homme. Je pense que connaître vrai Dieu et connaître vrai l'homme, ça va ensemble. Ça va ensemble. Sinon, ça va être facilement dans votre monde aujourd'hui. Une monde tant de choses, tant de mutations, pleine mutation. C'est comme ça pour moi, connaître vrai Dieu, connaître vrai l'homme, ça va ensemble. C'est une question aujourd'hui. Et vous savez très bien, il a été chrétien. C'est l'homme, c'est l'image de Dieu. Imago Dei. Et aussi, image du monde. Imago Mundi. Cela lui pose une question du choix. Du choix qui vient aussi implique la liberté et notre désir. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous désirons? Ça doute. On ne peut pas construire une société sans religion, sans image de Dieu. C'est comme ça, aujourd'hui, tant plus que jamais, on a besoin de prier. On a besoin. On a besoin des témoins, de la foi. C'est pas que il y a des gens qui sont témoignés de leur foi au premier siècle jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quoi témoigner de leur foi? C'est comme ça, connaître mieux, il faut se mettre à l'écouter. Écouter sa parole, c'est essentiel, je pense que sa parole est essentielle. Je pense qu'un repère dans notre vie, la parole de Dieu. C'est la parole de vérité. Moi je viens d'un pays de taoïsme, bouddhisme et confucianisme. Donc jamais j'ai entendu dans leur théorie qui dit Personne qui a dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Mais Jésus lui-même, il a dit, il est vérité, il est le chemin, il est la vie, c'est pas la mort, la vie. C'est à cause de ça, il y a des tant de personnes qui ont osé de mourir pour cette vérité. Pour cette vie, c'est la vie. C'est moins que la vie aujourd'hui, mais la vie après, vous voyez. C'est pour ça que je trouve, c'est la vie. Et finalement, pour comprendre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un martyr? Vous savez, qu'est-ce que c'est un martyr? Un témoin, un martyr, un grec. Mais faites attention. Depuis ce temps-là, on a entendu beaucoup des martyrs aussi. Mais c'est différent, hein? C'est pas kamikaze, hein? C'est aussi, ils ont été formés martyrs, c'est un kamikaze. Mais c'est lui, c'est eux, celui qui se tue dans le but de tuer. C'est kamikaze. C'est exactement avec les martyrs. Qu'est-ce que c'est martyr? C'est un martyr ou bien, vient directement d'un mot grec, martus, qui veut dire témoin. Témoin, il désigne le chrétien qui témoigne de sa foi au risque de sa vie. Témoigne de sa foi au risque de sa vie. C'est-à-dire que, c'est pas aujourd'hui, celui qui est capitaine, celui qui est à l'époque de la persécution, mais aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. C'est comme ça l'Église de l'Église que ce type de martyr a se éteint aussi, donc le témoignage a été jusqu'à accepter la mort, bah, la fidélité de leur foi. Nous sommes fidèles, nous avons aussi la fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité avec notre baptême. Comme ça, ça me rappelle de 1986, Jean-Paul II, qui est venu à France, il a posé une question à le peuple français. France, qu'avez-vous votre baptême? Que j'y fais votre baptême? C'est-à-dire, il a rappelé quelque chose de fidèle, le n'accepte. La fille aînée de l'Église. Mais ça danse, toujours. C'est notre mission. C'est d'éveiller la fidélité de l'autre. C'est des choses. Aussi, un témoin de martyr aussi. Et, c'est un témoin de la foi, mais quelquefois on a mal entendu ce mot la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Hein? La fidélité. Quoi?
La confiance en Dieu.
La confiance en Dieu, pas d'autre. C'est comme ça, quelquefois, on arrive à comprendre. Qu'est-ce que c'est la foi?
La joie.
Hein?
La joie.
La joie. Quoi d'autre? C'est dans ça, sinon on va partir avec dans certains mouvements, dans certaines mystiques. Non,
c'est un don.
C'est un don. Autre chose encore, c'est pas cette donne.
L'espérance.
La foi, vous voyez, foi, vertu, théologale. La foi, la charité, l'espérance. Mais ici, je suis doublement, c'est qu'est-ce que la foi? Puis, ben, c'est le mot latin. Quelquefois, on arrive à entrer dans une petite chose, on a perdu souvent la foi, la foi. Mais c'est quoi? C'est un don de Dieu, c'est la confiance.
C'est un don de Dieu qu'on accueille.
C'est un don de Dieu qu'on accueille, c'est pas mal. Tout à l'heure, vous avez prié pour que vienne quelqu'un. C'est un don surnaturel aussi, vous voyez. C'est-à-dire, d'après la richesse. Il a dit, la foi, c'est une adhésion de l'être humain à Dieu lui-même et qu'il s'exprime par la pratique du sujet croyant. Elle est un don de Dieu, une vertu surnaturelle, infusée par Dieu lui-même. Elle est un acte authentique humain, mais contraire ni à la liberté, ni à l'intelligence de l'homme, et de faire confiance à Dieu et à adhérer aux vérités révélées par Dieu, par lui-même. Ici, c'est pas le cours que je voudrais expliquer. C'est quoi la révélation? C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est voir un peu les vétérans pouvoir vivre le croix. C'est tout simple. Vous vous rappelez, c'est quoi la croix? C'est la liberté. Vous voyez? La vérité. Ce que nous croyons, ce n'est pas quelque chose de contraire la science, mais l'inverse, l'inquiète. Grâce à la foi, la science qui peut éclairer l'autre, grâce à la foi. C'est-à-dire que quand on est à vous cinq, croire pour comprendre et comprendre pour croire. Ça veut dire que notre foi, ce n'est pas une foi charbonnière, mais une foi se basée sur la révélation, se basée sur la parole de Dieu, se basée sur la tradition de l'Église. Mais, sinon, on ne peut pas, on peut écouter n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Non, toujours. La résonance, une grande résonance de notre foi, c'est la parole de Dieu, la tradition de l'Église. Et il faut vivre cette foi dans la communauté ecclésiale. On ne peut pas vivre la foi tout seul. C'est pour ça que les Vietnamiens comment ils vivent leur foi. D'accord. C'est-à-dire presque ça. Si vous comprenez, vous pouvez m'arrêter. Hein?
L'objectif pour
la réunion à la communauté.
L'assemblée.
Voilà. Je vais revenir pour m'arrêter les derniers et dire le point et après. Vous voyez, les derniers, comme tout être humain. La personnalité des Vietnamiens est complexe. C'est-à-dire, être humain est complexe. L'homme est compliqué. Et malade aussi. L'histoire qui a déjà dit. Et c'est l'histoire qui, aux Vietnamiens, qui bénétrit trois comme autres. Hein? C'est premier, ils sont marqués par les traditions anciennes. Tradition ancienne, tradition religieuse, se basait sur une des ancêtres. Et l'enseignement des grandes religions comme le bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Et deuxième chose, le vie est étroitement en rapport avec une vision transcendante du ciel et de la terre, des dieux, des esprits et des âmes. Le prix. Ça veut dire que les Occidentaux, non. Je pense aussi les Occidentaux, mais à d'autres manières. Ici, ils ont fait la tâche. Lui et toi. Et aussi l'esprit, tout le bien de la communauté chrétienne. L'esprit est bien attaché de la famille, de le village natal, et aussi de la partie. Une éducation pour provient de la sagesse populaire. C'est-à-dire dans ce contexte multiple domaine, que l'évangile de Jésus qui a été transmis. Dans ce contexte-là. C'est-à-dire que, je parle que les Asiatiques, les Vietnamiens, qui vivent le foi plutôt la foi collective. plutôt que croire une foi individuelle, mais grâce à la communauté, grâce à la communauté paroissiale, grâce les proches qui peuvent nourrir de leur foi. C'est une foi communautaire. Et dans ce contexte-là, la foi qui a transmis au Vietnam. Et depuis combien 1549, déjà, il y a un premier missionnaire qui était venu au Vietnam. 1545. 1545. Donc, pendant 4 siècles, ils ont combien?
Ils ont presque,
à peu près, 180 000 fidèles qui sont morts par le foi, qui sont morts le foi. C'est-à-dire qu'ils ont persécuté par le foi. Je ne peux pas donner des détails parce que le temps passe vite. Vous voulez que c'est la piété populaire qui nourrit le foi, et pendant 4 siècles de persécution, l'Église a conduit plus que 140 000 victimes de la foi, dont il y a 117 martyrs. Dans cette partie qui a canonisé par le pape Jean-Paul II, il y a 26 ans. Donc, maintenant, l'Église du Vietnam a, à peu près, vous avez déjà dit, deuxième pays chrétienté, catholique en Asie, ça c'est vrai. Parce qu'après Philippines, vous voyez, Philippines est presque 80% catholique. Ah, bien sûr, c'est inévitable. Mais au Vietnam, c'est pour l'instant, ils n'ont que 7 millions. Sur 90 millions d'habitants. C'est un petit nombre, à peu près 7%. Mais aussi, ça donne le poids dans le continent asiatique. Jusqu'à maintenant, il y a 26 diocèses, à peu près 40 évêques et 2 cardinaux, et 4500 prêtres, 2680 religieux et 17500 religieux et 4000 séminaristes. Vous voyez, en France, il y a des combien de séminaristes par vous.
17 000, c'est ça?
17 000 religieuses.
17
000,
ok.
Par contre, 4 000 séminaristes.
Ok.
À peu près 5 000 de prêtres. Donc, il y a beaucoup d'associations, d'engagements. Non, c'est une église très dynamique. Après 40 ans d'évangélisation. Voilà. Juste, je trouvais une phrase pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Je dis, aujourd'hui, nous sommes appelés à être témoins de la foi. Mais, nous avons besoin de témoins de la foi, mais sans complexe, sans agressivité, humble, assez lucide pour aimer le monde tel qu'il est. On ne voit trop pessimiste, mais pas aujourd'hui. Lucide dans notre foi, pour aimer le monde tel qu'il est. On ne voit pas aujourd'hui. Mais il faut toujours faire discernement. Avec des grandeurs, aussi des limites. Nous avons des grandeurs dans nous, et aussi des limites. Il faut le connaître. Et aussi, essayer d'écouter sa parole. J'ai fait tueur Le chemin de Dieu, au cœur, dans le cœur de chacun. Je pense que le parti aujourd'hui, c'est nous, nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Visite, discerner, mais aussi reconnaître notre limite, notre grandeur dans notre cœur. Voilà, je suis là. Vous pouvez demander un peu sur les martyrs, si vous avez des questions, sinon, je vais vous en avoir.
Merci. C'était prévu pour 5 ou 10 minutes, mais on s'est rendu de 20 minutes, 30 minutes. À la fin, on a la fin pour poser la question. On va poser la question tous ensemble après. On va aimer le monde en tant qu'il est. Ça, c'est vraiment un message vraiment important, je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, l'axe n'est plus en Europe, l'axe du christianisme. On vit dans une époque post-moderne, donc là c'est partout dans le monde. Il faut aussi s'intéresser dans notre continent. Quels sont les christianismes dans les autres continents? C'est aussi important pour nous. Parce que les chrétiens d'Orient viennent massivement en Europe. Quand même, derrière, il y a quelque chose. Ils ont une foi énorme. Parce que la foi est affaiblie en Europe. Les chrétiens d'Orient viendraient en Europe pour un peu renforcer aussi notre foi. Bon, je vous présente maintenant Dat et Loan. Bon, voilà, donc merci. Je laisse la parole.
Alors, donc elle vous a demandé de parler de l'un de mes ancêtres. Alors, il s'appelle Philippe, Saint-Denis, c'est le nom anglais. C'est un dernier arrière-canton. Alors, il ne s'agit pas seulement pour moi de mettre en avant un martyr de la famille qui est reconnu saint par les habitants, mais il s'agit plutôt pour nous, comme elle a demandé, d'inscrire un cas concret, un cas familial, la guerre des martyrs de la je passe la parole à Laurent.
En fait, il est né à tellement une ville du delta du Mékong, dans le quartier de Blanc. Et donc, en fait, né d'une famille catholique pratiquante, évidemment, père assistant clérical.
Il est responsable de la paroisse en tant que laïcien. Voilà.
Alors, mort dans une fratrie de 14...
Oui, 12e. Il est 12e membre d'une fratrie de 14 frères et sœurs.
Orphelin très tôt. C'est sa sœur aînée qui s'occupe de toute la fratrie. Et donc, de conditions aisées, mais pas riches, il fut donc envoyé aux études plutôt qu'aux travaux des chiens.
Je coupe la parole à la madame. C'est que ceci a son importance, c'est parce que chez nous, l'acquisition du chinois, en particulier de l'acquisition de l'écriture en caractère idéogramme chinois, permet l'accès et la réussite au concours mandarino, qui donne accès aux plus hautes fonctions de l'État. À part l'empereur qui peut se permettre éventuellement d'être éventuellement pas érudit, toute la classe dirigeante du pays. Depuis la fondation de Poitiers du Vietnam jusqu'à le monde moderne, l'acquisition du chinois est très importante. Donc c'est pour ça que c'est.
Donc en fait, il acquit très rapidement une bonne connaissance du chinois. Et dès l'enfance, il est un garçon doux et pieux. Et donc, il fait des confessions tous les deux ou trois mois et très assidué au caté. Donc, à 13 ans, il a eu sa première communion. Et puis...
c'est là qu'il a fait la rencontre avec Monseigneur Taber. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prêtre qui a beaucoup, officier au Vietnam comme missionnaire. Et donc Monseigneur Taber est venu lui donner sa première communion et est venu également dans sa paroisse pour donner des sacrements de confirmation. Et c'est là qu'il a rencontré pour la première fois et qu'il a demandé suivre la voie de la prêtrise déjà, vers l'âge de 13 ans. Monseigneur Faber l'a remarqué, il a pris note, il n'a pas accédé tout de suite à sa requête. Quelques années plus tard, effectivement, voilà, c'est tout.
Donc, quelques années plus tard, Monseigneur Lacla au séminaire à Caïtius, c'est une ville à côté de Saigon, où il réside et pour étudier. En janvier 1833, l'empereur promulga un édit interdisant la religion catholique, pardon. et c'est un avis qui est non publié. Et alors,
je prends le relais de second. C'est le début des grandes persécutions. De temps en temps, il y a des exécutions, des emprisonnements, mais là, il s'agit d'un des... En fait, c'est le deuxième empereur carrément de la dynastie des Helvétiques, celle qui a installé sa capitale à Rennes, si vous connaissez un peu l'histoire de la géographie. Et en fait, le problème, c'est que...
En fait,
j'ai
pas compris
en
quelle période ça se passe.
Ah, c'est en janvier 1833. On peut dire c'est vers le milieu du règne de cette deuxième empereur de cette dynastie-là. Et c'est que parce que tous les leviers, tous les mandarins, on peut dire favorables ou neutres vis-à-vis des catholiques, ont tous décédé. À partir de ceux de l'empereur père, si on peut dire. Et là, c'est le début, c'est la porte ouverte des persécutions. Hein. Voilà. Donc, Monseigneur Tabert.
Monseigneur Tabert fut emprisonné.
Vous vous souvenez de Monseigneur Tabert qui a fait venir au séminaire de Vatio, là, et qui l'a chapeauté pour le former au séminaire, hein, justement. Hein. Voilà.
Alors, donc, avant qu'il fût déféré à Rue, impériale, la ville impériale. Alors, Philippe Saint-Domingue s'est fait évader, en fait.
Il a fait évader parce qu'il est assez conséquent, assez rusé, assez intelligent, mais non violent. Donc, il a fait évader discrètement en perçant une porte, là. Et puis, comme là-bas, les constructions ne sont pas très solides, parce que c'est pas la pierre de taille, il a réussi à le faire sortir. Et discrètement de nuit, ils sont enfuis, ils sont passés la frontière du Vietnam, ils sont traversés le Cambodge et la Thaïlande pour arriver jusqu'en Malaisie. Voilà. Et ils sont réfugiés au séminaire de Thaïlande de Malaisie. Et c'est là que Philippe Mille a commencé à continuer ses études au séminaire pendant que Monseigneur Tabert est parti pour Calcutta, justement. Hein? Voilà.
Pour aider dans la rédaction des dictionnaires latins. Alors donc, c'est latino-anamite.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est pour ça que justement, on parlait qu'il avait déjà d'emblée une assez grande érudition en termes de connaissances en caractère chinois. C'est pour ça qu'il y a Monseigneur Saber qui voulait faire la traduction entre le latin et le vietnamien. Mais de l'époque, en fait, le vietnam est très proche du chinois finalement. Tout les lettres, toute l'intelligentsia, si on peut dire comme ça, du Vietnam ancien, ne pratiquait point dire que le chinois, et non pas le vietnamien. Le vietnamien est réservé, si vous voulez, en langage oral au petit peuple. Et donc, grâce à ça, il a pu aider Monseigneur Tabert à finaliser ce fameux dictionnaire, dit latinum analyticum, c'est de latin, hein, je ne suis pas très fort. Donc, quand il a fini de faire ça avec Monseigneur Tabert, malheureusement, dans les mois qui ont suivi, Monseigneur Tabert est décédé. Et il est retourné à nouveau au séminaire de Thaïlande, qui est géré, bien sûr, comme tout le monde le sait, ou ne sait pas, par les missions étrangères de Paris. Et c'est là qu'il a terminé ses études, avant de revenir au Vietnam, vers l'âge de 28-29 ans à peu près. Voilà.
Alors, donc, ensuite, donc, à l'âge de 31 ans, ordonné prêtre par le Monseigneur Cueno.
Donc, quand il est rentré au Vietnam, après le séminaire, il a d'abord exercé comme diacre pendant un certain temps. Et donc, par la suite, donc, il a été ordonné prêtre par Monseigneur Cueno à l'âge de 31 ans. Le chiffre a son importance parce qu'il a eu le temps d'exercer son ministère que pendant 7 ans. Et donc, Monseigneur Cueno n'est pas l'évêque de son diocèse, mais comme il y a à cause des persécutions, l'évêque du diocèse du Delta du Mékong a été à cette époque déjà en prison. Donc vous voyez que déjà que les traces sont assez poussées, et donc c'est quand même, ça c'est les prêtres, les évêques français. Hein. Donc malgré ça, la sentence et le traitement est assez dur. Donc du coup, pour pouvoir être ordonné prêtre, parce qu'avec les persécutions, on manquait de prêtres aussi, de prêtres français, des missions étrangères, mais également de prêtres locaux. Donc la situation est tellement urgente que le père Min, enfin le futur père Min, a été ordonné par cet évêque qui le connaît déjà, mais qu'il a dû aller le voir en cachette pour faire ordonner prêtre, et dans un diocèse voisin, si on peut dire. Voilà. C'est terrible, hein? Voilà. Et donc, il a pu exercer donc, pendant à peu près 7 ans. Il s'est déplacé des paroisses en paroisses de façon itinérante pour donner la messe, pour donner les sacrements. À l'époque, on n'avait pas le droit encore de construire des églises, parce qu'il y a beaucoup de persécutions. Tout se fait en cachette, en fait. Il s'est déplacé avec un petit sac, avec un petit baluchon, si on peut dire, avec ses instruments de culte. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est déplacé, même pour faire le catéchisme. Hein. Donc, et l'empereur suivant durcit encore. Vous voyez, on est au deuxième empereur au moment où il était parti de Vietnam. Et l'empereur suivant est encore plus sévère plus encore renforcé dans le sens des persécutions. Et donc, il commence à durcir tellement les peines que pour les prêtres occidentaux en particulier, autrefois, ils commençaient à exiler et renvoyer les prêtres, par exemple, dans les pays où ils viennent. Et les prêtres locaux sont extradés ou exilés dans les régions marécageuses, montagneuses, forestières, pour qu'ils puissent vivre et mourir petit peu, discrètement. Et là, il s'agit carrément de nouvelles condamnations, de nouvelles peines, qui sont, pour les prêtres occidentaux, décapités, têtes jetées à la rivière, et pour les prêtres locaux, c'est carrément dépecé en morceaux et les morceaux jetés à la rivière. Hein. Je m'excuse pour la cruauté, mais c'est l'empereur qui a décidé ainsi. Hein. Et donc,
c'est quelle date, hein?
C'est vers, on peut dire, le règne de l'empereur Tuduk, c'est vers les années 1850. Hein. Voilà. Et donc, vers l'année de fin 1852, donc le père Min, là, il est devenu le père, en raison des problèmes d'insécurité, justement, de risques et de traque, il est renvoyé dans une paroisse considérée comme plus sûre. Une paroisse toujours dans le Delta, mais une paroisse considérée comme plus sûre. Malheureusement, l'ancien curé de cette paroisse a l'habitude et la gentillesse d'aider, de subventionner, si on peut dire, un paroissien local, pas très bon pratiquant, qui est plutôt joueur, buveur, et qui a l'habitude d'emprunter de l'argent. Et comme, de temps en temps, il n'a pas suffisamment d'argent, parce que le prêtre a beau être très large, il a aussi d'autres travaux, d'autres projets. Et donc, cette fois-là, il n'a pas voulu donner. Je n'ai pas assez d'argent, tu disais. Donc, ce villageois-là, il était devenu furieux et résolu de se venger. En décidant de se manger, il s'est dit, voilà, pour un prêtre occidental, il gagnait 11 lingotins d'argent, beaucoup moins pour un prêtre local, mais bon, il gagnait quand même une petite tambour de l'autre, un peu à la manière des 32 deniers, si on peut dire, de Judas. Hein. Voilà, et donc, il est parti à la préfecture régionale de Vidlon, et il l'a dénoncé. Il a dénoncé, malheureusement, ce prêtre à qui il avait une dent n'est plus là. C'était le père Min qui est venu le remplacer entre-temps. pour des raisons, encore une fois, d'insécurité, on a déplacé les prêtres. Et c'est comme ça qu'il était, quand les soldats sont venus, c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Alors bien sûr, au début, il s'était caché. Dans toutes les maisons des paroissiens vietnamiens qui accueillent les prêtres, on en faisait des cachettes assez... Comment dire, bon, c'était à la mode chez nous. On n'a pas de passage secret comme dans le château en France, mais on a, par exemple, on aménage des cachettes dans les greniers à riz, dans les tunnels, vous voyez, un peu comme le tunnel de Kuchi, comme on voit à l'intérieur de l'Église, vous voyez, c'est très élaboré, on ne pouvait pas du tout deviner. Malheureusement, les soldats ont commencé à encercler la maison, ils ont investi la maison et commencé à tabasser, à torturer la famille haute. Et le père Mine a dit, bon, si il est sorti de sa cachette volontairement, alors qu'il sait bien que si on trouve rien, la soldatesse serait partie. Mais malheureusement, il est quand même sorti pour essayer de sauver la famille qu'il a reçue. Il a dit, bon, voilà, ne touchez plus à ces gens-là, me voici si vous me voulez. Et les soldats et l'officier disaient, êtes-vous le père Lou, qui était le père qui recherchait? Et en fait, non, il dit, non, je suis le père Lou, mais je suis prêt quand même, prenez-moi. Et comme il y a dans tout ça, bien sûr, des primes à l'arrestation, les soldats l'ont emmené, voilà. Et ils l'ont emmené donc, à la préfecture de Vinh Long, qui est la capitale du delta du Mekong à l'époque. Et donc, pendant de février ou de mars, de mars 1953 jusqu'à son martyr, le 3 juillet 1853, donc ça fait à peu près 5 mois, pendant ce temps-là, il était en prison. Et il était dans une période, on peut dire, d'instruction. Hein. Et pendant la phase d'instruction, c'est là qu'on voit que sa connaissance du chinois, par exemple, lui vaut beaucoup d'admiration. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, chez nous, encore une fois, ceux qui sont reçus, on peut dire, lauréats au concours mandarino, sont ceux qui sont les plus forts en caractère chinois, et qui font, c'est-à-dire c'est ceux qui font les meilleurs poèmes. Donc du coup, comme il avait cette capacité et cette rédition, bah, les mandarins, surtout le préfet et le juge, disent bah, « c'est dommage quand même, lui c'est un fils de bonne famille, il n'est pas riche, mais bon, il est quelqu'un de bien élevé, bien éduqué, on ne va pas le mettre à mort juste pour l'histoire des catholicismes. » Mais ça, on est dans le sud, donc c'est un peu plus tolérant. Mais le problème, c'est que la cour de Ré, la cour à la capitale, ils entendent passer cette oreille. Ils leur donnent quand même de faire ce qu'il faut. Alors, donc, pardon, il y a plusieurs phases. Malgré le respect, la différence que le préfet, la police, tout le monde, tous les officiels venaient me voir, sont captivés par sa gentillesse, son intelligence, lui proposaient, on va dire, plusieurs solutions pour essayer de le sortir de l'instruction et de déclarer non-croyant, tout ça. Il ne voulait rien entendre. Donc il y a une phase de tentation qui est énorme. Alors, au début, bien sûr, on le menaçait, parce que si vous ne vous abjurez pas, bien sûr, il y a la peine, etc., capitale. Bon, bien sûr, il est hors de question. Hein. Et puis donc, après, il y a la grande épreuve qu'on appelle l'épreuve de la croix posée à même le sol. Donc il prenait un grand crucifix détaché d'une église, il le mettait par terre, et il s'agit pour ceux qui sont, on peut dire, jugés, de piétiner devant le préfet et le juge, pour montrer, le procureur, pour montrer qu'il abjure la religion catholique. Alors, bien sûr, il ne veut pas, hein, il dit, attention, moi, non. Alors, comme il voulait quand même le sauver, il dit, bon, c'est pas grave, vous allez simplement l'enjamber. Il dit, non, pas question non plus, ça peut pas faire. Alors, ils ont trouvé une autre solution encore du moins. Comme il est assez mince, voilà, vous êtes au soldat, portez-le, et comme ça, on le pose dessus. Comme ça, il va toucher quand même. Et il reprend les billets, ses jambes, on lui met des coups à trois jambes pour qu'il relâche, mais il ne relâche pas, et il fait plus fort. On dit, non, moi, je ne veux pas. Donc du coup, il en est tranquille. Et malgré ça, le préfet de région, plus le juge, voulait encore le sauver. Et il proposait encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il dit, maintenant, vous déclarez que vous n'êtes pas prêtre. Carrément. Et Ça, tu es prête, mais on va faire semblant et vous signez, puis c'est bon. Oui, pas question non plus. Alors, à ce moment-là, les objets de culte qu'on a trouvés sur vous, vous déclarez ça. Justement, ça appartient au Monseigneur Le Serre, qui était justement emprisonné déjà, comme vous savez tout à l'heure, et qui est l'évêque du diocèse. Comme ça, vous portez pour lui seulement. Vous êtes un petit peu une sorte d'homme à tout faire, peut-être être paroissial, mais pas du tout prêtre, vous voyez. Donc, je dis, pas question non plus. Ça va très bien, parce que vraiment, il subit les pressions à la fois sur le plan des menaces, mais en même temps, ça n'a pas attention. Et puis, le Seigneur dit, bon, comme vous avez un bon niveau de chinois, là, c'est bon, on vous offre carrément un poste de dignitaire à l'écran, ou dans les administrations de province. Vous serez, on peut dire, vous aurez le pouvoir, l'argent, en fait. Vous voyez, c'est vraiment la tentation dans toutes les possibilités. Hein. Et finalement, donc, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que le Père Lé a dit, voilà, moi je suis prêtre, je ne peux pas faire ça par fidélité au Seigneur et par fidélité aussi à mes paroissiens, parce que moi je leur dis, n'ayez pas peur, ne renoncez pas, et moi je renonce. Même de façade, ça ne se fait pas, je ne peux pas. Non, du coup, il dit, faites de moi ce que vous voulez, mais il est hors des questions que, voilà. Hein. Et donc, du coup, il est emprisonné. Et malgré tout, le préfet et le juge, le procureur, a décidé de rédiger une sentence, on peut dire, en faisant un petit peu la sourde oreille, si vous voulez, aux idées de l'empereur. Parce qu'il prenait la sentence de l'ancien empereur, si vous rappelez tout à l'heure, c'est que comme il refuse d'abjurer, on va le déporter dans les régions insalubres, on va le faire mourir à petit feu. Donc, c'est dit, c'est comme gentil, parce qu'ils font exprès pour que quand ça remonte à la cour impériale, ça leur assez de poids et qu'avec un peu de chance, l'empereur ça se suffira. Malheureusement non. Plusieurs mois après, la sentence est arrivée et l'empereur a commué la peine. Alors, vite quand on a une peine grave, on commue la peine plutôt en quelque chose de moins sévère. Et là, c'est différent. L'empereur carrément commue la peine en peine capitale par les décapitations. Et bien sûr, la tête jetée de la rivière, hein, ça c'est fini, on n'est même pas réunis pour la sépulture, voilà, c'est très cruel. Mais il a dit, bon, moi j'accepte jusqu'au bout, il n'est pas du tout dans l'optique de quelqu'un qui a la haine, voilà, il prie, continue à prier, tout ça, et le fameux mauvais garçon, mauvais chrétien qui l'a dénoncé, pas tellement lui-même, mais indirectement, par erreur, si on peut dire, il est venu plusieurs fois lui demander pardon, et il a prié avec lui, il a demandé à tous les gens d'apparence qui venaient le voir de temps en temps, de prier pour lui pour qu'il se convertisse. Hein? Et il a jusqu'à donner l'argent, parce que ce gars-là, forcément quand il vient, il demande aussi un peu de sous, parce qu'il continue à jouer, en plus. Alors du coup, il donne aussi de l'argent, c'est pas grave, il dit c'est pas grave, je t'en veux même pas, non, mais essayer de convertir. Et après son martyr, l'histoire dit que dans les années qui ont suivi, ce mauvais paroissien est devenu un paroissien très honorable. Il n'a plus jamais... Voilà. Hein? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très beau, parce que même jusqu'au bout, il pardonne. Hein? Il pardonne à ses bourreaux, bien sûr, ça n'est pas un problème. Il pardonne à tout le monde, jusqu'à tel point que quand il est en prison, le matin, le geôlier en chef lui ouvre la porte de la cellule pour qu'il puisse respirer et faire un petit tour dans la cour de la citadelle. Mais en même temps, l'officier en chef qui gardait également la porte de l'enceinte extérieure lui confiait dans les clés une fois ouverte. Et le soir, tout ce petit monde revient, reprend les clés. Voilà, en fait, il y a une question de confiance parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se débattre ou à s'enfuir. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est à ce point-là. Et bon, malheureusement, le 3 juillet 1853, qui d'ailleurs un dimanche au passage, hein, c'est un petit peu... C'est une coïncidence, pas pour moi. Et donc le 3 juillet 1853, on l'amène à la décapitation parce que malheureusement, la sentence qui était un peu moins sévère a été commise en décapitation et le jour où ça arrive, ils l'ont fait assez rapidement, voilà, en se disant ce jour-là. Mais il est parti sans aucun regret. Je ne sais pas s'il a envie vraiment comme tous les martyrs, de mourir. Il a beaucoup prié, il a resté plusieurs fois le chapelet, il a demandé au bourreau, il a demandé aux soldats qui l'emmenaient, à chaque fois il fait bien, il sort son chapelet, il priait juste au moment où il était à genoux, et qu'on lui nouait les cheveux sur le front, sur la tête, pour qu'on puisse dégager les cervicales, pour qu'on... Pendant ça, il priait encore. Et il dit, voilà, je pardonne à tout le monde, et surtout, il demandait aux paroissiens de ne pas abjurer la foi, de garder la fidélité au Seigneur.
Voilà.
Hein? Voilà. Et donc, si vous voulez, là, nous, on a accepté de faire ce témoignage, pas tellement pour parler de mon ancêtre, hein, c'est l'arrière-grand-oncle, que je n'ai pas connu d'ailleurs, mais en fait, il se trouve que 1815, l'année de sa naissance, c'est il y a 200 ans. Et puis, c'est pour illustrer un cas concret, un cas familial, dans l'histoire des martyrs connus, mais également sur les plus de 100 000 ou 100 000 moins connus du Vietnam. Mais ces martyrs-là qui ont versé leur sang, qui ont fait grandir justement l'église du Vietnam, et qui a permis justement, malgré le nombre de persécutés et de morts, que l'Église du Vietnam est quand même à sa place aujourd'hui en Asie comme deuxième derrière les Philippines. Ils n'ont pas eu autant de martyrs, donc forcément, nous sommes contents parce que, à cause de ça, à cause de la récompense que le Seigneur nous a donnée, par le sang de ces martyrs justement, de nous avoir donc donné une église assez, comme disait le Père, on peut dire dynamique. Hein? Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup, parce que M. Zat, en général, c'est quelqu'un très discret, il ne donne pas vraiment le témoignage en public, mais ils sont plutôt à la découverte du christianisme-là, ils ne sont pas dans le christianisme depuis longtemps, mais ils sont en train de découvrir, et ils sont très très, maintenant, entrés, vraiment une grande foi. En fait, là, au Vietnam, on vit différemment le christianisme, mais on est tous frères. Une fois qu'on est chrétien, on ne demande pas la nationalité d'origine, mais on est tous une partie du corps de Jésus. On est tous frères. Donc, ce qu'il a vécu, ce qu'ils ont vécu en Vietnam, c'est une partie de nous qu'ils ont vécu. Donc, c'est nous qui ont vécu. C'est Jésus qui a vécu. Donc, il faut voir comme ça avec la fraternité. Nous sommes tous frères. Il faut jamais oublier ça. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, on a dépassé le temps. Et juste une question.
En fait, je me demandais aujourd'hui quels étaient les rapports entre l'Église catholique au Vietnam et les chrétiens vietnamiens et avec le Parti communiste, avec les communistes au pouvoir. Comment ça se passe?
Oui.
Comment ça va comme il faut. Oui, il y a comme date derrière la fin. C'est une église romestale, mais en pleine de vitalité, de la foi, à cause peut-être de notre ancêtre qui a resté. La société vietnamienne est bien. Bien déchiré par la guerre. Tout d'abord, 1000 ans de domination par les Chinois, 100 ans de colonisation française, et après 1954, au moins les Américains, et encore les Japonais, aussi les partis communistes qui ont laissé des traces très profondes au niveau de la guerre. C'est-à-dire une société conflictuelle qui déchire le peuple. Mais pour l'instant, l'Église vietnamienne est très courageuse.
Elle est toujours souterraine.
Quoi?
Elle est toujours souterraine ou bien...
Partout. C'est une église très courageuse. Il y a certains moments, le communiste qui veut faire comme la situation en Chine, mais la conférence épiscopale vietnamienne, il sait très bien, il est solidaire. Ils sont solidaires entre eux,
et le communiste qui n'arrive pas à se déchirer, qui n'arrive pas à diviser le souterrain au mur, non? Une église vivante, quand, c'est incomparable ici. Quand je suis à la messe là-bas, mais à la messe à 5h du matin, 500 personnes, 1000 personnes sans problème. Mais ici, la messe de dimanche, au moins le pied de dimanche n'a pas passé. Chaque dimanche, j'ai été au moins 4 messes. 4 messes. Mais ici, ça arrive. Mais ici, j'ai été fait avec quelques personnes. Bien sûr, il y a des problèmes avec le Parti communiste. Je veux dire, vous savez très bien, 1975, le communiste qui a pris tous les pouvoirs, et ils ont tout confisqué, tous les terrains, vous voyez, tous les terrains dans l'éducation, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout. Et pour l'instant, il y a toujours de tension entre les congrégations religieuses, ou bien des fidèles, et de l'État, parce qu'ils veulent récupérer de leur terrain.
Comme en Chine.
Voilà, tu vois comme en Chine, c'est autre chose. Donc, les congrégations religieuses, avant 1975, ils ont engagé dans l'éducation, surtout au site, l'éducation, l'hôpital, ou bien d'autres domaines. Maintenant, les communistes qui ont bien tout pris, mais c'est le terrain et le terrain. Même ils ont détruit vraiment de l'école, le monastère, pour construire une école communiste. Voilà, il y a cette prétention. Sinon, c'est, pour l'instant, l'église est très dynamique, très solide, très solide. Et dans le foi.
Il y a la liberté de culte.
Il y a des libertés, mais entre guillemets. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais toujours, il y a un certain accord avec l'État. Mais, depuis 5 ans que j'ai vécu en tant que jeune prêtre, écoute, moi je vois sans problème. Sinon, il y a certaines des persécutions haute montagne, haut plateau, bon, surtout dans les ethnies, mais de plus, plutôt les autorités locales, ils ne savent rien, ils font n'importe quoi. Ben, c'est ça, dans ce sens-là. Sinon, pour l'instant, il y a une certaine liberté, une certaine ouverture. Voilà. Si vous avez une question.
Et c'est quoi la persécution chez les minorités ethniques dans les hauts plateaux? En fait, ils interdisent le culte, c'est quoi?
Non, la persécution, vous voulez dire?
Oui, en fait, c'est quoi le cas où vous appelez la persécution?
En fait, plutôt la compréhension de l'autorité locale. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de connaissance. Mais parce que, vous voyez, j'ai la machine de propagande communiste, très forte. C'est leur idéologie depuis longtemps. Ils pensent que la religion, comme une sorte de opium du peuple. Mais au fur et à mesure, ça un peu légèrement la compréhension. Mais c'est dans ce sens-là qu'il. Mais sinon, surtout la question de compréhension des autorités locales.
Marcel Van, c'est la même période ou c'est après?
Oh, Marcel Van, c'est après. Marcel Van, c'est après, c'est-à-dire que quand le communiste qui a pris le pouvoir, Marcel Van qui s'engage un peu dans certaines activités caritatives, l'église locale. Et à cette époque-là.
Début de l'ancienne.
Oh, Marcel Van, à peu près 1950, quelque chose comme ça. Surtout à cette époque.
On ne peut pas continuer infiniment.
Si, après. Oui. Après la messe, on
pourra. Oui, après, vous avez plein de temps. Donc, maintenant, juste avant de passer la parole à Jean-Michel pour le partage de la parole d'aujourd'hui, je vais faire trois annonces. Donc, maintenant, nous avons notre symbole, le côté prière. Donc, ça, c'est la du bâton de bergère, donc le bâton vertical et horizontal avec l'étoile. Donc notre message phare, c'est amour et paix pour toujours. Voilà. Et c'est ce que nous voulons réaliser dans ce monde et nous voulons suivre. Que c'est amour et paix, c'est vraiment ce dont nous avons tellement besoin. Est-ce que vous pouvez venir?
Vous pouvez lever, on va remplir au Seigneur de notre bonne volonté pour construire le royaume de Dieu et en nous et autour de nous. C'est notre mission et l'ange qui témoigne de la vérité. La vérité qui est en nous, parce que nous sommes tous image de Dieu. Et la vérité aussi, autour de nous, reconnaître la grandeur, les limites et la faiblesse de l'homme pour que le message de l'Évangile qui va tout le coin du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, depuis 2000 ans, quand tu es allé, le message toujours, la paix sur la terre, que les anges qui nous ont apporté, mais en regardant ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de paix. Parce que les hommes, ils n'ont pas pris de le soi comme message. Ils n'ont pas de bonne volonté. Et pour recevoir ton message de paix. Et quelquefois, nous te faire reproche pourquoi tu nous donnes la paix au monde entier. Mais tout d'abord, il faut nous regarder nous-mêmes tout d'abord. Est-ce que nous sommes vraiment avoir une bonne volonté pour recevoir cette paix? Seigneur, bénissez ce tableau. Et ce tableau qui exprime bien de ta volonté, volonté de construire un monde de justice, un monde de paix, un monde plein d'amour et de vérité, pour que tout le monde soit connaître de ton amour et ta vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. C'est le dessin que j'ai fait d'après la vision que j'ai eue, la vision qui m'est apparue au monastère Saint-André pendant la retraite. Donc maintenant nous avons construit un site sur Internet avec Jean-Baptiste Poisson. Donc, si vous allez sur le site groupe prière.free.fr, vous avez toutes les informations sur notre groupe de prière et aussi sur l'explication de cette image et aussi le programme qu'on organise en fait pour 2015 et 2016. C'est un message très très fort. Pour ce temps de tribulation, vraiment on a besoin de paix et d'amour. Pour vraiment, nous devrions prier beaucoup pour la paix. Et puis donc, comme je vous ai dit, la retraite à Saint-André, ça c'est uniquement pour les hommes, parce qu'il n'a fait que les hommes. Mais pour les femmes, je vais organiser une autre retraite à Lisieux. Lisieux, c'est à côté. Donc, je vais vous communiquer par email ou vous pouvez voir sur le site les informations. Et donc, voilà, à peu près, c'est tout, je pense. Je ne sais pas si ça peut avoir la
solution. Les gens peuvent peut-être nous donner leur adresse email, on leur renvoie un lien vers le site.
Oui, oui. Avant de vous quitter, et si vous donnez l'adresse email, on va vous communiquer en fait toutes les informations. Si vous pouvez voir sur le site aussi. Voilà. Jean-Baptiste, vous donnez. Et puis la dernière chose, j'ai oublié, on va faire un collecte livre à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, parce que on a les Ascensions qui nous a donné cette salle gratuitement, la collection gratuite, pendant presque un an. Et nous aussi, on doit un peu quelque chose aux Ascensionnistes. Aussi, maintenant, notre groupe Pierre a pris une certaine dimension, donc on a besoin d'un certain moyen pour faire développer. Donc Jean-Michel va s'occuper de comptes, donc tous les argent qui sont après dans le panier collecté, serait tous... Jean-Michel va faire un rapport à chaque fois donc, où on va cet argent. Donc, en principe, c'est pour les ascensionnistes et pour notre fonctionnement, aussi des fois pour les charités et pour les événements aussi. Voilà. Donc, je passe la parole à Jean-Michel.
Il reste 1 minute.
15 minutes.
15 minutes.
Donc ça va être ce thème en bas.
Pour que vous restez. Alors, on va avoir du mal en 15 minutes à lire les trois textes du jour, mais je vous propose, si vous avez une Bible, parce que les chrétiens normalement ont une Bible sur eux. Ou alors vous avez le prix en église qui se trouve juste là, vous pouvez le prendre, c'est à la page 152. On va lire l'évangile du jour. Alors je vais juste rapidement lire l'évangile, après on prendra une ou deux minutes de réflexion, méditation en silence, puis après on échangera sur ce que vous comprenez, ce que vous recevez, pour partager sur la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Parole du Seigneur.
commencé.
Bon, je veux bien, mais je voulais commencer la dernière phrase.
Oui.
Alors, quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Alors, moi je note qu'il dit quiconque appartient à la vérité, non pas possède la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'on ne possède jamais la vérité.
Oui. C'est ce qui a fait un grand nombre de divisions dans le monde. Oui. C'est de croire qu'un homme ou quelqu'un avait la vérité. À chaque fois que quelqu'un est convaincu d'avoir la vérité, et non pas que Dieu est la vérité, c'est un sens différent. Les gens se persécutent, se tuent, se divisent pour affirmer leur vérité. Et ça a créé énormément de divisions dans la foi, énormément de morts. Moi j'ai envie de dire une autre chose aussi, c'est un passage qui parle fortement de l'identité. L'identité de qui je suis et ce que Christ est. Pilate est romain, je crois, probablement en tout cas. Il dit, moi je ne suis pas juif. Et je me suis demandé si j'étais à la place de Pilate, qu'est-ce que j'aurais répondu. Pour moi, cette parole fait référence à qui dis-tu que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de Jésus face à Jésus? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Est-ce que mon identité, c'est d'être français, vietnamien, ou alors d'une pensée? Ou est-ce que, si je suis chrétien, je n'appartiens plus à ce monde, mais un royaume céleste.
Le royaume de Dieu, c'est le Jésus-Christ lui-même. Donc, on appartient à Jésus.
Tout à fait. Mais ça implique aussi de quelque part d'avoir une nouvelle identité, d'avoir une identité en Christ. Non plus en un gouvernement ou une pensée du monde.
La signification de conversion, on n'est plus dans l'identité du passé ancienne, on reprend une autre identité qui vient
exactement
de Jésus. Donc on se transforme et on est rené en fait, par Jésus.
Ouais.
Et puis Pilate pensait avoir le pouvoir de vie ou de mort sur Jésus.
Ouais.
Et Jésus a eu le courage de par sa nature, homme et Dieu, ne craint absolument pas Pilate, il lui répond simplement. Et c'est vraiment en écho du témoignage qu'on a entendu par rapport à Saint-Philippe Nîmes, qui lui, face à ses bourreaux, est allé jusqu'au bout et n'a pas eu peur de résister jusqu'à la mort.
Oui, en tant que chrétien, on n'a pas peur de la mort. C'est ça notre puissance. Parce qu'on est dans la vie. Et cette vie ne s'arrête pas avec la mort.
Moi, je voudrais souligner les phrases. Ma réalité n'est pas de ce monde. Si ma réalité était de ce monde, je les déteste, je serais battu pour que je ne sois pas livré de juif. Pour être tout ce qui m'arrive, c'est Jésus. Il a accepté. En s'avant toujours livré, sa faiblesse, etc. Dans l'une des prières au début, il dit, Dieu notre Père, ton fils Jésus n'a pas d'autre puissance que l'amour. Et cette puissance-là est toute puissante. Il y a une autre prière que je préfère, qui est dans le jour du matin. Seigneur du ciel et de la terre, tu as engendré ton fils unique Jésus, le Messie. Et tu l'as donné en le ressuscitant la victoire sur tous ses ennemis. Fais-nous comprendre la force de ton amour. Apprends-nous à te servir avec fidélité pour que nous n'ayons pas à son règne. Il faut vraiment que nous soyons persuadés de la toute-puissance de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, vous dites cet appel quand vous faites la prière des frères. On est vraiment... Ce n'est pas, il n'y a pas d'autre puissance que l'amour, c'est toute la puissance que l'amour.
Mais ce que je trouve super, c'est que Jésus, de tous les êtres qu'il a croisés, il les a toujours enseignés. Et pour moi, ce qu'il fait, c'est que Pilate pose une question et Jésus lui apprend qui il est en lui disant qu'il n'est pas de ce monde. Et en fait, il le fait par l'interrogatif, comme souvent dans les évangiles. C'est une pratique d'apprentissage que je trouve super à chaque fois. Parce qu'il dit, ma royauté n'est pas de ce monde, si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes. C'est pour dire à Pilate, si j'étais comme César, comme toi, tu vois, on m'aurait sorti, on m'aurait défendu. Mais je ne suis pas de ce monde. Et...
Il dit qu'elle n'est pas de ce monde, mais il ne dit pas qu'elle n'agit pas dans le monde.
Ah
oui, non, mais je complète.
Et moi, ce qui me surprend, c'est cette affirmation, et dire ensuite, Pilate lui dit, alors tu es roi. Et j'ai cherché la relation entre le fait que Jésus lui dise ça, ma royauté n'est pas de ce monde, etc., en l'expliquant, et Pilate lui dit, alors tu es roi. C'est presque assez prophétique, mais c'est étonnant parce qu'il lui démontre qu'il n'est pas un roi comme lui l'entend. Et il lui pose quand même une question. Mais alors, es-tu roi? Enfin, comment tu peux être roi? Comment es-tu roi?
Oui, donc il l'interpelle.
Il l'interpelle, il lui dit, comment tu peux être roi si tu n'as pas des gardes, si tu n'as pas des gens pour te sauver, etc. Et la plus belle réponse, c'est je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque elle appartient à la vérité, écoute ma voix. Et après, on revient sur je suis le chemin à la vérité. Et,
le chemin et la vérité.
Bonjour.
Désolé de vous interrompre, mais la messe va commencer dans quelques minutes. Oui. Si vous voulez prendre un peu d'air. Respirez.
On prend un peu la pause et on en sort. Alors, c'est la photo d'Elena. Donc, quelqu'un qui voulait avoir une journée Quinter, vous pouvez faire un cocher ou me donner un email et je vous envoie.
Merci.